est temps de parler d'une ressource à préserver, une ressource à chérir, car une ressource qui se tarit de plus en plus. Ressource mal utilisée pour certains, car il est vrai que dans mon expérience, j'ai déjà entendu cette question au cours de dîners amicaux. Pourquoi l'eau de la chasse d'eau des toilettes est-elle potable ? Vous apprendrez, auditeurs et auditrices, qu'en France, chaque cuvette engloutit 30 à 40 litres d'eau potable par jour. Un gaspillage monstre qui pourrait être limité grâce à des systèmes plus respectueux de l'environnement. Chaque seconde en France, le simple fait de tirer la chasse engloutit 3171 litres, soit 100 millions de mètres cubes d'eau potable. Est-ce une question à laquelle on répondra ce jeudi, également 28 avril, jeudi soir, lors de l'Afterwork Curieux? Posons la question déjà à Selim, bonjour.
Salut Lucas, salut à tous.
Bonjour et re-bienvenue Selim, derrière ce micro que tu connais bien. J'espère que tu es bien installé, tu t'entends bien?
Ouais, je m'entends super bien, c'est toujours nickel comme d'hab.
C'est nickel. Est-ce qu'on parlera donc du gaspillage de l'eau potable des toilettes jeudi soir?
Je sais pas, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de poser la question avec grand plaisir, parce qu'on a un line-up assez cool pour cet afterwork. Donc pour rappel, l'idée des afterworks, c'est de proposer un rendez-vous mensuel donc au calme, comme à la maison, une salle de diffusion qui est au cœur de la faculté des sciences et techniques de Limoges, au bâtiment B pour être plus précis. Et le but, c'est de parler d'un sujet de culture scientifique, mais aussi lié avec le quotidien. Et donc c'est pour ça que l'on invite à chaque fois un ancien chercheur, mais aussi une personne de la société civile. Alors, on va pas parler de toilettes, peut-être pas, mais vous pourrez poser la question, comme je le disais. Mais on va plutôt parler de l'eau et des eaux, car il y a plusieurs eaux différentes. Oui. Au-delà du fait que ce soit tout simplement une commodité, comme on le présente souvent, bien l'eau, c'est aussi une comment dire ça ? Une ressource culturelle, en fait.
Tout à fait. Et ça, j'ai été étonné de l'angle pris. Alors, en tout cas, qui est possible, parce que c'est vrai que l'eau, on pourrait en parler sur plusieurs afterworks. Hein.
Ouais, carrément.
C'est un
carrément
vaste sujet. Et j'ai pu voir donc qu'il n'y aura pas simplement une visée écologique à ce débat. On est heureux de voir aussi qu'on parlera des différents mythes de ce qu'on appelle l'or bleu.
Exactement, finalement. Parce que donc, le titre exact, c'est eau, au pluriel, retour aux sources. Et on va en parler dans une première partie de manière plutôt anthropologique, avec Jamie Linton, donc, qui est un géographe, anthropologue et philosophe autour de l'eau, qui est rattaché au laboratoire Géolab de l'Université de Limoges. Et en fait, avec lui, on va parler de l'aspect de l'histoire, en fait, avec un grand H, de l'eau, l'influence qu'elle a pu avoir dans toutes les cultures de l'humanité. Donc, par exemple, tu vois, en France, il y a eu beaucoup de légendes sur les eaux miraculeuses, les eaux des fontaines de différentes communes qui avaient chacune, à travers de chacune, on avait donné des propriétés, en fait. Hein, voilà, l'eau qui permet de rajeunir, hein, mais l'eau qui permet aux enfants d'être en bonne santé, l'eau qui permet aux vêtements de tenir plus longtemps si on les lave dedans, etc. On va parler avec lui de tous ces aspects-là, que ce soit de manière nationale ou même internationale. On pense par exemple, tu vois, la danse de la pluie, par exemple, on va parler de ça. Pourquoi les tribus amérindiennes faisaient ça? Quelles étaient les influences que ces rites pouvaient avoir? Voilà, on va faire un petit tour un peu de tout ça, sur le côté philosophique, le côté historique de l'eau.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi des connotations religieuses, hein, sur pas mal de ces mythes, avec la fontaine de Lourdes, notamment. Aussi,
complètement, voilà. Donc on va essayer de toucher un petit peu à tous ces aspects-là, avant qu'elles deviennent un élément purement de commodité aujourd'hui, puisque l'eau, aujourd'hui, on l'a tout simplement en ouvrant notre robinet, en tirant notre chasse d'eau, comme tu le disais aussi. Mais avant toute chose, l'eau, ce n'est pas une substance dénuée de sens. Et justement, on va parler de ça avec Jamie Linton en première partie. Et en deuxième partie, on va inviter Niels Bourneau, qui était un formateur à l'Office international de l'eau, mais qui s'est lancé dans un petit projet entrepreneurial assez cool. Il a récupéré une centrale, enfin il a récupéré un moulin à eau qui est à Comprégnac et l'a transformé et est en train de finaliser cette transformation en centrale hydroélectrique. Et donc le but, c'est que lui, il est aussi un peu engagé, c'est-à-dire que plutôt que de faire juste un lieu qui va créer de l'énergie, hein, grâce à l'eau, de l'énergie électrique, il part surtout d'un principe que cette énergie, il souhaite la donner, la vendre soit à l'État, donc à Engie, je crois que c'est ça. Ça a changé, j'ai plus les noms. C'est pas EDF, enfin c'est l'Engie, je crois.
Ouais, je saurais même pas te dire.
Voilà. Et mais surtout lui, il est engagé aussi parce qu'il a envie de fournir cette énergie aussi à des structures qui sont issues de, enfin qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Donc il a envie, à travers son projet, de contribuer aussi, en fournissant cette énergie-là donc à des structures, qu'elles soient entrepreneuriales ou associatives, qui ont du sens, voilà, qui participent, comme je le disais, à l'économie sociale et solidaire sur le territoire limousin.
D'accord, tout à fait. Donc oui, c'est vrai que là, ça va prendre des chemins assez différents,
ça
va être assez général. Comment vous avez préparé cette... parce que effectivement, on l'a dit, c'est un vaste sujet, beaucoup d'angles sont disponibles. Comment vous avez préparé, comment vous avez anticipé cette réunion?
Le but, en fait, c'est de d'abord poser les bases. Aujourd'hui, l'eau, c'est quoi? Qui y a accès de manière macro, hein, c'est-à-dire à travers le monde entier? On va parler peut-être aussi de l'aspect, malheureusement, de plus en plus dégueulasse et nauséabond, qui est une potentielle financiarisation de l'eau.
Oui.
On le constate déjà dans certains pays, comme l'Australie, où maintenant l'eau est une ressource presque privée sur tout le territoire. Donc ça pose d'énormes enjeux, que ce soit pour les populations, mais surtout le monde de l'agriculture, qui... mine de rien, est un secteur d'activité qui est l'un des plus énergivores en eau. La potentielle, alors j'espère que ça n'arrivera jamais, mais cotation en bourse de l'eau. On va donc aussi s'attarder à l'échelle locale sur divers projets que Jamie Linton a portés. Donc par exemple, on parle beaucoup de la route des vins, des choses comme ça, on fait les tournées des vignerons pour aller boire des coups, goûter. Mais Jamie Linton a porté le projet de la route des crus. Il a à travers la Vézère, donc qui est cette j'ai peur de dire des conneries, cette rivière, ce fleuve, ouais. Rivière, je te remercie.
Je pense.
Ouais, mais écoute.
Je pense qu'on est ensemble là.
Voilà, n'hésitez pas, les auditeurs, allez nous voir sur Récréation ou sur Bob FM pour dire qu'on dit des bêtises. Mais en tout cas, on ne dira pas de bêtises le jour J, ce jeudi soir. Où en gros, il s'est intéressé à ce cours d'eau, en tout cas, où il a été voir différentes communes, différentes populations, différents acteurs pour avoir un point de vue historique. Histoire sur ce cours d'eau, sur les crues qu'il y a pu y avoir et les enseignements qu'on a pu en tirer. Il va nous faire un retour aussi sur une consultation qu'il a fait en mi-mars dernier sur le territoire auviennois sur la ressource en eau, en allant consulter aussi des agriculteurs, des citoyens, etc. Nous faire un petit retour un petit peu de l'influence de la topologie de l'eau sur notre territoire. Et en fait, on va faire un parallèle aussi avec Nils sur cette question-là, parce qu'on ne va pas parler seulement de son projet de centrale hydroélectrique, mais qui nous donne aussi, lui, son point de vue d'expert sur la situation aujourd'hui de l'eau sur notre territoire, savoir comment ça se passe. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du fait qu'on manquait d'eau dans les nappes phréatiques ou qu'il y en avait trop par rapport à la Vienne aussi. On aura leur point de vue sur ça d'expert, ou comme ça, on pourra ainsi débunker des fake news ou des légendes qu'on peut entendre dans notre entourage, comme tu disais, quand on en parle des fois en repas de famille autour de nous. Donc on aura un éclairage, un point de vue en tout cas de personnes qui s'y connaissent en fait, tout simplement. Et bien évidemment, comme d'habitude, ce sera l'occasion aussi pour le public qui est présent, qui peut venir de manière gratuite, sans inscription, à partir de 18h30, de poser vos questions sur l'eau, et pas forcément que les angles qu'on a choisis. On pourrait poser des questions de manière globale, et c'est tout l'intérêt justement de ces afterworks curieux.
Et oui, comme tu l'as très bien dit, Selim, énormément de questions à se poser sur des angles divers et variés. C'est proposé donc par Récréation. Donc, peux nous rappeler ton titre honorifique, Selim, maintenant?
Chargé de mission.
Chargé de...
Ah ouais, c'est plus simple.
Ah, mais je crois que c'est chargé de mission sur un tiers territoire.
Alors, le vrai titre, c'est chargé de mission projet de territoire.
Projet de territoire,
mais c'est chargé de mission. Moi, l'idée, c'est que je me balade un petit peu sur tout le territoire avec Limousin pour faire le lien avec les différents acteurs de culture scientifique, que ce soit des assos, des entreprises, d'autres formes juridiques diverses et variées, mais qui ont pour point commun de vouloir diffuser de la culture scientifique auprès du grand public. Donc la culture scientifique, c'est hyper large. La radio Bob FM aussi, à travers diverses émissions, à travers le soutien des afterworks, fait aussi de la culture scientifique. Donc voilà, ça va très très loin, très large. Et puis je me permets aussi un petit teasing sur les prochaines thématiques.
Je t'en prie, bien sûr.
Très rapidement, en mai, on va investir la ville de Guéret dans le cadre de l'événement national Chimie et Terroir. Donc là, on aura un after work le 19 mai autour de la chimie et des couleurs. Donc on va s'intéresser autour de l'imprégnation des couleurs que l'on peut retrouver dans les tapisseries. Hein, parce que voilà, Aubusson, c'est pas très loin de Guéret. Donc on va parler de ça avec potentiellement un ancien chercheur ou un professeur pour avoir un peu un volet historique autour de ça, des tapisseries, de comment c'est arrivé, de pourquoi c'est un objet culturel qui est prégnant et qui existe encore aujourd'hui. Et on aura aussi un point de vue dans ce même afterwork artisanal avec une coloriste qui travaille encore aujourd'hui sur les tapisseries, qui va nous parler tout simplement de son quotidien, de comment ça se passe une coloriste, comment ça se passe pour la fabrication actuelle des tapisseries, mais comment ça se passait par le passé. Est-ce que les savoir-faire se sont maintenus depuis le Moyen-Âge, où ça a été un peu le pic de l'arrivée des tapisseries. Donc on parlera de ça, pépouze aussi du côté de la quincaillerie numérique, hein, tiers-lieu de Guéret, super cool. Et en juin, je suis en train de finaliser, mais je suis trop content à titre personnel que l'on mette en avant ce sujet-là. On va parler d'e-sport. De sport électronique, et là on va plus réfléchir tu vois sur le volet juridique. Donc là aussi tu vois, le juridique, c'est une culture scientifique, c'est une science, l'aspect juridique. Et donc on aura pour invité notamment donc un agent de sportif d'e-sportif qui est en Limousin, qui est aussi joueur, qui est aussi manager. Et on aura aussi en parallèle pour l'aspect culture scientifique et bien des enseignants chercheurs du CDES, hein, donc le centre de l'économie et du sport qui est basé à Limoges et qui est un centre international. On a pu voir des grandes pointures du sport comme Zinedine Zidane par exemple, qui est passé là-bas pour pouvoir se former en tant qu'entraîneur ou autre. Et ils vont nous tenir au courant aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe au niveau national en termes législatifs et même européens. Quelle est la place de l'e-sport, parce qu'aujourd'hui l'e-sport par exemple n'est pas dépendant du ministère des sports, mais pour l'instant du ministère du numérique.
Eh oui, d'accord.
Alors que c'est...
Il pourrait y avoir un vrai pont.
Il y a un pont à faire dans d'autres pays, notamment les pays asiatiques qui sont à la pointe sur ça, notamment la Corée du Sud. C'est rattaché à des fédérations de l'e-sport. En France, ça n'existe pas pour l'instant. Et donc, comment ça peut être géré? Quels sont les enjeux aussi des futures compétitions? Parce que pour l'instant, les compétitions d'e-sport sont surtout maintenues et organisées par des éditeurs de jeux vidéo, donc des gens du privé. Là où normalement, dans les autres sports, il y a des comités, il y a des fédérations. Oui. Ce serait faux de dire que c'est dénué de tout enjeu économique, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est géré par des organismes qui ne sont pas en lien avec des intérêts économiques. Sur le papier, encore une fois. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, et ça, pareil, ça nous permettra d'avoir un angle super intéressant sur aujourd'hui un monde où il y a quand même 15% des internautes qui s'intéressent à l'e-sport, que ce soit en tant que spectateur, que ce soit en tant que compétiteur ou partenaire. Oui. Donc on va parler de ça, et ça, ce sera en juin. Je n'ai plus la date en tête exactement, mais bien évidemment, on pourra le retrouver.
Évidemment qu'on le retrouvera sur bobfm.org, notamment. C'est vrai que c'est un sujet, on voit qui te tient à cœur aussi. Puis il y a pas mal de plateformes aussi avec TikTok et toutes les possibilités regarder les autres. Twitch, exactement. Ouais. Donc bref, effectivement, c'est un vaste sujet.
Gros enjeu, voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc c'est ce jeudi à partir de 18h30 au bâtiment B de la fac de sciences au Calme. Et comme je le disais, c'est gratos, c'est ouvert à tous, et vous n'avez pas besoin de réserver, tout simplement de suivre les infos sur Récréation ou sur Bob FM pour avoir un petit récap de tout ce qu'on s'est dit, quoi.
Exactement, oui, puisque Bob FM vous proposera le podcast à suivre normalement dès le vendredi sur bobfm.org. Bien sûr, merci Célim.
Merci à vous encore une fois, avec grand plaisir, et puis on se dit à jeudi.